Merci d'écouter RFI. Midi et demi en temps universel. Il est 13h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner. Bonjour à toutes et à tous. Une délégation de la rébellion du M23 et des représentants de Kinshasa sont à Doha. Le Qatar avait organisé une rencontre entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame le 18 mars dernier. Au surlendemain de l'arrestation de Riek Machar par les forces du président Salva Kiir, Raila Odinga est au Soudan du Sud. L'ancien premier ministre kényan est envoyé par le président Ruto, président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, pour tenter de désamorcer les tensions. À Paris, la fin du sommet sur la malnutrition. À l'heure de la baisse des aides humanitaires et du repli américain, comment faire face? Axel von Trantzenburg, le numéro 2 de la Banque mondiale, est l'invité d'Afrique Midi. Les sports du football, c'est désormais officiel. La CAN 2025 des moins de 20 ans aura lieu en Égypte. La Côte d'Ivoire s'est retirée in extremis de son organisation. Va-t-on vers des discussions directes entre la RDC et le groupe armé M23 au Qatar? L'hypothèse est sur la table car une délégation de la rébellion et des représentants de Kinshasa sont sur place à Doha. Pauline Azidi, on vous retrouve en direct de Kinshasa. On se souvient que le Qatar avait organisé une rencontre entre les présidents congolais et rwandais le 18 mars dernier. On sait que l'émirat poursuit sa mission de médiation. Une nouvelle étape serait-elle à l'ordre du jour?
Alors officiellement, Nicolas, aucune information ne circule sur ce qui se passe actuellement au Qatar. Aucun camp n'a d'ailleurs encore communiqué sur sa présence à Doha. On se souvient que le 18 mars dernier, le tête-à-tête entre les deux chefs d'État avait surpris le secret ayant été gardé jusqu'à la fin de la rencontre. Difficile de confirmer, avoue en effet un proche du palais, ici à Kinshasa, qui ajoute que désormais le président agit en toute discrétion. Une autre source à la présidence congolaise nous confirme tout de même ce matin qu'une délégation de RDC est bien arrivée au Qatar, délégation composée des chefs du renseignement. Plusieurs autres sources confirment-elles la présence à Doha du M23, en revanche pas d'informations sur la venue de représentants de Kigali. En tous les cas, cette activité diplomatique pose la question du rôle de cette médiation qatarienne qui prend de l'importance. Après l'entretien des deux présidents, plusieurs sources proches du dossier expliquaient pourtant que l'objectif n'était pas de créer un processus de Doha, mais de reconstruire la confiance. Est-ce que ces délégations vont se rencontrer? Personne ne s'avance sur ce point. Il y aurait plusieurs préalables à régler avant de pouvoir réunir autour de la table les différents acteurs.
Pauline Azidi, correspondante de RFI à Kinshasa, sur le terrain, dans l'est du Congo. Une délégation d'officiers de la SADC, la communauté d'Afrique australe, est arrivée ce matin à Goma. Délégation conduite par le chef d'état-major des forces armées sud-africaines et des officiers du Malawi ou de la Tanzanie. Elle rencontre les autorités de l'AFC M23 qui a pris le contrôle de la ville il y a 2 mois. Au programme, les modalités de retrait de la SAMI RDC, la force que l'Afrique australe avait envoyée dans la région. Goma, où l'aéroport reste fermé, mais les nouveaux maîtres de la ville ont lancé des opérations de déminage, Alexis Guilleux.
2 mois après la prise de la ville, le son des avions a cédé sa place au silence. À l'entrée de l'aéroport, des combattants de l'AFC M23 sont stationnés. Au milieu des bâtiments détruits et des bureaux pillés, des herbes ont commencé à pousser. Des spécialistes s'activent pour déminer la zone. L'AFC M23 affirme avoir déjà sécurisé une partie de l'aéroport de Goma, mais il reste du travail car une grande quantité de mines et d'explosifs y ont été disséminés. Le tarmac, lui, est déjà déminé. Autour, on peut voir les cartouches et les obus récupérés par le groupe armé. Mais la piste, elle, reste inaccessible et la tour de contrôle n'est plus opérationnelle depuis les combats. Les stigmates de la guerre sont encore visibles dans l'enceinte de l'aéroport, des hélicoptères de l'armée capturés, d'autres endommagés et des colonnes de gilets militaires stockées à proximité de l'entrepôt central. Depuis la prise de Goma, des organisations onusiennes et régionales plaident pour la réouverture de l'aéroport afin de permettre la création d'un couloir humanitaire. Dans un récent rapport, le secrétaire général de l'ONU a pointé les restrictions de déplacement imposées par l'AFC M23 à la MONUSCO, ce qui empêche le service antimine de neutraliser tous les engins non explosés.
Le Kenya a nommé hier un envoyé spécial pour le Soudan du Sud. Le président William Ruto a désigné l'ancien opposant Raila Odinga. La tension reste particulièrement forte au Soudan du Sud depuis mercredi soir, depuis que le premier vice-président Riek Machar a été arrêté et placé en résidence surveillée par les forces de sécurité loyales au président Salva Kiir. Gaëlle Lalex, Raila Odinga est arrivée ce matin à Juba pour tenter de jouer les médiateurs.
Engager des discussions, tenter de réduire la tension et faire un rapport. C'est la mission que William Ruto a confiée à Raila Odinga. Sur X, le président kényan affirme s'être entretenu hier avec son homologue sud-soudanais Salva Kiir au sujet de l'arrestation de Riek Machar. Selon Korir Singoï, le ministre des Affaires étrangères kényan, Raila Odinga doit rencontrer les deux hommes ainsi que l'ensemble des parties prenantes à Djouba. C'est en concertation avec le président ougandais et le premier ministre éthiopien que William Ruto a désigné Raila Odinga. Les pays de la région regarde avec inquiétude ce qui se passe à Djouba. C'est notamment grâce à la médiation de l'IGAD, l'organisation régionale de la Corne de l'Afrique, qu'un accord de paix avait été trouvé en 2018 pour mettre un terme à plusieurs années de guerre civile. Dans un communiqué publié hier, Werkneg Ebeyaou, son secrétaire général, demande à ce que toutes les parties se retiennent de commettre des actions unilatérales qui violent l'accord de paix. Il prévient, le retour de la guerre aurait des conséquences dévastatrices pour le peuple sud-soudanais et toute la région. Gaëlle Alex Nairo, RFI.
Au Mali, après un an de détention, l'universitaire Étienne Fakaba Sissoko est libre. Il a quitté hier matin la prison de Kenyoroba, à 75 km de Bamako. La publication d'un livre dans lequel il qualifiait de propagande la communication du gouvernement lui avait valu une condamnation pour atteinte au crédit de l'État. Son avocat ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme n'ont cessé depuis de dénoncer un procès politique, David Bachet, destiné à faire taire une voix critique.
Oui, et après avoir quitté sa cellule, Étienne Fakaba Sissoko a réaffirmé son engagement pour la liberté d'expression et le débat académique. Après une année de détention, il est rentré chez lui. Son avocat, maître Ibrahim Marouf Sako, peut enfin se réjouir.
Enfin, c'est une bonne nouvelle. Monsieur Étienne Fakaba Sissoko a regagné les siens, sa femme, ses enfants, sa maman. Et il va pouvoir désormais regagner ses étudiants à la faculté des sciences économiques de Bamako, où est véritablement sa place.
Étienne Fakaba Sissoko avait écopé d'une année de prison ferme, qu'il vient de purger, mais aussi d'une année avec sursis, une menace qui continue de planer. Le chercheur avait été condamné pour atteinte au crédit de l'État, injure et diffusion de fausses nouvelles de nature à troubler la paix publique, après la publication d'un livre sur la propagande du gouvernement malien de transition, dans lequel il estimait notamment que les vidéomènes activistes utilisés par le pouvoir décrédibilisaient la parole publique. Étienne Fakaba Sissoko souhaite désormais être innocenté, maître Sako.
On a un recours qui n'est pas épuisé. Nous pensons que tôt ou tard, justice sera faite parce que c'était des expressions d'opinion, un travail universitaire. Donc, nous espérons qu'à l'issue de l'examen de ces recours par la justice, Étienne sera blanchi.
Outre sa peine de prison, Étienne Fakaba Sissoko avait aussi été condamné à verser 3 millions de francs CFA, près de 4 600 euros, de dommages et intérêts à l'État malien.
Au Burkina Faso, Human Rights Watch s'alarme d'une série d'arrestations qui s'enchaînent. En l'espace d'une semaine, le journaliste Idrissa Barry et 4 autres militants du mouvement politique Sens ont été emmenés sans mandat ni motif officiel, tout comme le président et le vice-président de l'Association des journalistes du Burkina et un reporter de la chaîne privée BF1. Tous se sont détenus dans un lieu toujours inconnu à ce jour. Ileria Allegrosi, chercheur sur le Sahel pour Human Rights Watch, le déplore. Le musellement de toute voix dissidente est devenu la règle au Faso.
C'est une répression qui s'intensifie alors que le pays plonge progressivement dans une situation de violence à grande échelle. Et les mépris du gouvernement pour les libertés fondamentales, les libertés civiques risquent vraiment d'amener à la disparition totale des organisations indépendantes, des médias indépendants qui continuent et essayent de publier des opinions critiques contre la junte au Burkina. On peut dire que la répression a atteint des nouveaux sommets et que le gouvernement recourt de plus en plus à la répression contre ceux qui demandent des comptes à la junte ou les personnes qui osent dénoncer les dérives de la junte, par exemple les atteintes aux droits et libertés fondamentales, les exactions commises par les militaires dans le cadre de la lutte contre les groupes armés islamistes. il y a carrément des efforts concertés du gouvernement pour décimer les médias indépendants, les voix discordantes et la société civile.
Des propos recueillis par Sidi Yansané. Il n'y a plus de partis politiques au Niger. Tous sont dissous sur ordonnance du général Abdourahmane Tiani. L'annonce a été faite avant-hier lors de la cérémonie au cours de laquelle le chef du CNSP a été proclamé président de la République. 20 mois, jour pour jour, après qu'il a renversé Mohamed Bazoum. Cette mesure de dissolution des partis politiques faisait partie des recommandations des assises nationales tenues le mois dernier, Magali Lagrange.
Silence radio dans les états-majors des grands partis nigériens après l'annonce de leur dissolution dans un pays où l'espace civique s'est fortement réduit. Plus de 30 ans après l'instauration du multipartisme, le Niger comptait 172 formations politiques. Suspendues depuis le coup d'État de 2023, elles n'ont pas été associées aux assises nationales. C'est un tournant décisif dans la vie politique du pays, écrit le média Aïr Info Agadez. Un membre du PNDS y voit une façon de remettre de l'ordre dans une offre politique pléthorique. Parmi ces dizaines de formations, beaucoup n'étaient que des coquilles vides, explique un analyste. Pour lui, il existait par ailleurs une réelle déception de l'opinion nigérienne envers les partis, mais leur dissolution ne réglera pas les problèmes politiques. Un observateur de la société civile exprime sa crainte. L'installation progressive de la pensée unique, la disparition de toute opposition. Les membres des partis que nous avons pu joindre attendent le feu vert pour créer de nouvelles formations et préparer un retour des civils au pouvoir. Les assises nationales ont recommandé de limiter leur nombre.
RFI l'avait révélé. En Guinée, le premier ministre de transition Bahori confirme que les opérations de recensement de la population sont en pause. Dans un entretien au magazine Jeune Afrique, le chef du gouvernement de transition reconnaît des difficultés à aller au bout du RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil. Problème, Sidi Yansané, c'est de ce recensement que doit être tiré le futur fichier électoral. Les autorités ont promis que les Guinéens voteraient cette année. C'est d'ailleurs lundi que le président de transition, Mamadi Doumbouya, doit dévoiler la date du référendum constitutionnel.
Exactement, Nicolas. Et quand Jeune Afrique lui demande où en est le recensement, Bahori répond que c'est en cours. Et quand le journal lui indique que ce dernier est suspendu depuis février, le Premier ministre répond finalement que le processus est en pause. Pour justifier cet arrêt, le chef du gouvernement explique que la méthodologie pour réaliser le RAVEC est inopérante. Il parle de nouveaux mécanismes, d'un changement de système, mais sans préciser lesquels. Alors ce matin sur RFI, nous revenions sur cette affaire dont nous parlions déjà il y a 2 semaines. Et suite à notre papier de ce matin, le chargé de communication de la primature a contacté RFI et a parlé d'une confusion et d'une incompréhension des propos du Premier ministre. D'après la primature, ce n'est donc plus à partir du RAVEC que sera tiré le fichier électoral car les délais sont trop courts, mais à partir d'une campagne d'enrôlement biométrique qui commencera le 15 avril. La primature maintient que se tiendront bel et bien cette année les élections législatives présidentielle et référendaire. Pour cette dernière, le président de transition Mamadi Doumbouya s'était engagé à dévoiler la date du référendum constitutionnel avant la fin mars, c'est-à-dire lundi prochain.
Il est 12h43 à Conakry.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, nous irons au sommet sur la nutrition qui s'achève en cette mi-journée à Paris. Et les sports, la CAF a annoncé hier soir que l'Égypte organiserait la CAN des moins de 20 ans le mois prochain. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce vendredi au Tchad, le ministère des Affaires étrangères annonce que les États-Unis ont décidé de restreindre l'octroi des visas pour une durée de 90 jours pour les demandeurs de visas de tourisme, d'études et d'affaires. Cette mesure ne s'applique pas, toujours selon le communiqué du ministère, pour les demandes de visas diplomatiques ou pour ceux qui ont déjà un visa ou détiennent une carte de résidence. Le ministère tchadien des Affaires étrangères dit regretter cette mesure et se dit prêt à travailler avec les services américains compétents pour clarifier et lever au plus vite les raisons qui ont motivé cette restriction. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU a annoncé ce matin une chute de 40% de ses financements pour 2025, évoquant une crise sans précédent alors que 58 millions de personnes risquent d'être directement impactées. Cette annonce est faite au moment où s'achève à Paris le sommet sur la nutrition. 27,55 milliards de dollars sont annoncés pour lutter contre la malnutrition. Un record, Christina Okello, salué par la France, pays hôte de cette troisième édition.
Oui, Nicolas, nous avons dépassé la somme de Tokyo sans les États-Unis. La déclaration de Thani Mohamed Soliyi, ministre délégué à la francophonie, traduit le soulagement de la France qui parle d'une prise de conscience face à l'urgence nutritionnelle. Plus de 27 milliards de dollars promis, 5 milliards pour la Banque mondiale, 9 milliards pour la Banque africaine de développement, sans compter les contributions des fondations et du secteur privé. L'enveloppe doit être déployée sur 5 ans avec un objectif ambitieux. Intégrer la nutrition dans 80% des budgets nationaux, notamment à travers les cantines scolaires. Mais la méfiance persiste. À Tokyo, 27 milliards avaient été promis aussi. On n'en a pas vu la couleur, se souvient Agnès Kirabeau, membre de la société civile ougandaise. La mise en œuvre reste donc un défi majeur. Autre incertitude, la continuité de cette mobilisation. Les États-Unis n'ont pas encore confirmé leur volonté d'organiser la prochaine édition qui devrait s'organiser à Los Angeles, puisque c'est la ville hôte des Jeux Olympiques qui doit accueillir cette rencontre. Interrogé, le ministre délégué reste prudent, on espère.
Christine Okello en direct du sommet sur la nutrition pour la croissance. Dans quelques minutes, on revient sur les enjeux du financement de la lutte contre la malnutrition avec le numéro 2 de la Banque mondiale, Axel von Trantzenburg, et notre invité. La malnutrition est un fléau mondial devant lequel hommes et femmes ne sont pas égaux. Selon les chiffres de l'UNICEF, 1 milliard d'adolescentes et de femmes sont en carence alimentaire sur la planète. Une femme sur trois est anémiée. Une table ronde était organisée hier sur ce thème en marge du sommet, Penaï Traoré.
Plusieurs facteurs expliquent la malnutrition chez les femmes. L'environnement social, la pauvreté et aussi les raisons liées aux normes sociales. Édouard Sebombo, directeur des programmes de l'ONG MAMA, mère contre la malnutrition et la faim, basée en Ouganda.
Le genre et les normes sociales discriminent les femmes. Une femme ne doit pas manger tel aliment, elle ne doit pas aller acheter de la viande quand elle a ses règles. Ce sont des constructions sociales. Nous essayons de former les leaders coutumiers et religieux pour leur faire comprendre que si l'on discrimine les femmes, on condamne toute la communauté.
Elles sont nombreuses, les femmes qui ne sont pas sensibilisées sur les questions de nutrition et n'ont pas assez de connaissances sur les possibilités nutritionnelles qu'elles ont à leur disposition. Cela peut avoir des conséquences sur leur santé, surtout chez les femmes enceintes, selon Ladidi Bako Ayebou Semenay, directrice du département chargé de la nutrition au ministère fédéral de la Santé du Nigeria.
La femme enceinte peut mourir, donner naissance à un bébé qui a des déficiences cognitives ou des malformations. Cet enfant ne pourra pas grandir normalement et vivre pleinement. Et il va hériter de la pauvreté de ses parents, transmise d'une génération à l'autre. C'est ce que nous appelons la pauvreté intergénérationnelle.
La malnutrition amplifie aussi les inégalités entre les sexes en réduisant le potentiel d'apprentissage et les opportunités des jeunes filles.
Les sports, c'est désormais officiel. La CAN 2025 des moins de 20 ans n'aura pas lieu comme prévu en Côte d'Ivoire. Fin avril, la Confédération africaine de football a confirmé hier le retrait du pays des éléphants de son organisation en raison, je la cite, de circonstances imprévues. Pas de détails. La CAF qui, dans la foulée, annonce que c'est l'Égypte qui reprend le flambeau. Conséquence de ce désistement, les éléphantaux, à l'origine non qualifiés, mais qui avaient finalement obtenu leur ticket grâce à l'organisation à domicile, sont boutés hors du tournoi, à la grande déception de leur sélectionneur, Younes Zerdouk.
C'est un sentiment qui est mitigé parce qu'en fait, on n'était pas qualifié dès le départ. On a travaillé très très dur pour saisir cette nouvelle opportunité. On a travaillé très 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 dur pour créer un groupe et ça portait ses fruits et on commence à créer quelque chose de magique. Après voilà, c'est comme ça. Si le gouvernement ou l'État s'est retiré, c'est qu'il avait des raisons. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît pas. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut se qualifier. Il n'y aurait eu aucun souci. Donc un peu de tristesse, oui, pour les joueurs aussi. J'ai pas eu contact avec les joueurs pour l'instant. J'imagine que leur tristesse, leur déception, parce que ce qu'ils ont montré dans les matchs amicaux, où on a gagné 3 matchs sur 4, donc c'était vraiment de très très bon augure, surtout 3 matchs de suite, quoi. C'est un rêve un petit peu qui s'envole, mais il y a d'autres rêves à aller chercher.
Des propos recueillis à Abidjan par Youen Gourlet. 13h49 à Paris, Anne Cantner, les grands titres de ce vendredi 28 mars.
Une vingtaine de morts. Premier bilan du séisme qui a frappé la Birmanie ce matin, chiffre communiqué par le principal hôpital de la capitale. Débordé et endommagé, l'entrée des urgences s'est effondrée. La junte au pouvoir en Birmanie a lancé un appel à l'aide internationale. L'Inde et l'Union européenne ont déjà fait savoir qu'elles pouvaient fournir un appui au secours. Et puis, la secousse a touché aussi la Thaïlande, où l'on déplore au moins 3 morts et des dégâts matériels. Le président libanais dénonce toute tentative de ramener son pays dans un tourbillon de violence. Déclaration à Paris, où il est reçu par Emmanuel Macron. Le président français critique, lui, une violation du cessez-le-feu après des bombardements israéliens dans la banlieue sud de Beyrouth. Conséquence, le Hezbollah annule un rassemblement prévu aujourd'hui. Et puis Vladimir Poutine évoque l'idée d'une administration transitoire pour l'Ukraine sous l'égide des Nations Unies, option qui implique le départ de Volodymyr Zelensky avant toute négociation sur un accord de paix.
Le sommet Nutrition pour la croissance s'achève donc à Paris sur une promesse des acteurs présents de débloquer 27 milliards de dollars pour venir en aide aux 700 millions de personnes souffrant de la faim sur la planète. Mais les défis sont nombreux. Mobiliser le secteur privé, compenser la perte de l'aide au développement américaine. On fait le point avec Axel von Trotzenburg, le numéro 2 de la Banque mondiale. Et il a répondu ce matin aux questions d'Alexis Bédu.
Bonjour Axel von Trotzenburg.
Bonjour.
Vous affirmez qu'investir dans la nutrition est économiquement judicieux. Chaque dollar investi dans la lutte contre la malnutrition rapporte 23 dollars en retour selon vous. Comment est-ce possible? Expliquez-nous un petit peu votre raisonnement.
Lorsque nous faisons ce type de calcul, cela montre qu'il est rentable d'investir dans la jeunesse, de la période prénatale à la période postnatale. La tragédie, c'est que si les enfants ne sont pas bien nourris, cela entravera leur développement intellectuel et cognitif. À long terme, cela aura un impact énorme sur leur capacité à réussir dans leur vie professionnelle, ce qui signifie qu'ils ne pourront pas progresser autant qu'ils le pourraient. Nous avons essayé d'évaluer, de calculer et de quantifier cet impact, et il apparaît clairement que ces investissements ont un retour sur investissement considérable. Cela prouve à quel point il est essentiel d'investir dans la jeunesse pour assurer un avenir prospère.
And that speaks for itself that you need to invest in your children and for a successful future.
Alors 27 milliards de dollars ont déjà été mobilisés lors de ce sommet qui se tenait à Paris. De combien d'argent en plus avons-nous besoin pour couvrir les besoins ?
C'est une combinaison. Il y a ce que les donateurs vont fournir, mais il est absolument essentiel que les pays eux-mêmes continuent d'investir. Cela nécessitera des milliards de dollars, non pas en une seule fois, mais de manière continue. C'est le message que nous transmettons. La communauté internationale peut accompagner les pays, mais au final, ils devront aussi consentir d'importants investissements. Nous travaillons tous ensemble, que ce soit le système des Nations Unies, les banques multilatérales de développement, comme la Banque mondiale, les accords bilatéraux ou encore le secteur privé, y compris la philanthropie.
But also bilateral and then the private sector, including philanthropy.
Comment vous faites pour mobiliser le secteur privé? Je crois que ça a été une des questions principales de ce sommet à Paris.
Well, it is always a challenge in difficult times to mobilize any money.
C'est toujours un défi en période difficile de mobiliser des fonds. Mais nous devons penser différemment et voir comment créer de nouvelles coalitions qui se traduiront ensuite par des engagements concrets. L'enjeu est donc d'élargir ces efforts tout en maintenant les engagements des autres institutions. Par exemple, la Banque mondiale a annoncé son intention de consacrer environ 5 milliards de dollars, voire plus, à cette cause. Le message clé est donc que la communauté internationale doit rester engagée. Nous ne devons pas seulement parler, mais agir. Nous devons mobiliser des ressources, non seulement auprès des autres, mais aussi par nos propres moyens.
We have to mobilize not only from others, but you have to do it also yourself.
Alors l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest font partie des régions où la situation s'est le plus détériorée ces dernières années, d'autant plus que plusieurs pays occidentaux réduisent leur aide au développement. Ce fut le cas de la France, c'est particulièrement le cas des États-Unis qui se sont désengagés au début de l'année, qui n'étaient pas présents à ce sommet. Comment faire face à cet arrêt de l'aide américaine si elle se confirme ?
Nous avons constaté une diminution de l'aide au développement et ça nous inquiète. Nous sommes très actifs auprès des donateurs, mais aussi du secteur privé pour qu'ils restent engagés auprès des pays en développement. Nous disposons d'un fonds destiné aux pays les plus pauvres, appelé l'Association internationale de développement. Nous venons de finaliser un cycle de financement de 3 ans avec une enveloppe allant jusqu'à 100 milliards de dollars, dont environ 70 milliards seront destinés à l'Afrique. Nous souhaitons que les donateurs bilatéraux poursuivent leurs efforts et restent généreux. Mais en tant qu'organisation, nous ne voulons pas nous inscrire dans une logique de réduction des financements. Au contraire, nous voulons renforcer notre engagement.
We, as an organization, don't want to join the chorus of reducing. In fact, we want to increase our engagement.
Et donc le secteur privé, les banques multilatérales peuvent compenser cette
I don't think so. Je
ne pense pas. Les montants peuvent être extrêmement élevés, donc il faudra combiner plusieurs sources de financement. Nous devons explorer comment mobiliser d'autres donateurs. De nouveaux acteurs émergent, que ce soit des marchés émergents ou des pays comme la Corée du Sud qui a intensifié ses programmes de développement. Ce qui est clair, c'est que nous ne disposerons pas de toutes les ressources nécessaires, mais nous aurons les moyens financiers suffisants pour agir efficacement.
We will not have sufficient resources, but we will have the working capital to make a difference.
Merci Axel von Trotzenburg.
Thank you very much.
Axel von Trotzenburg, directeur général senior de la Banque mondiale, au micro d'Alexis Bédu. L'entretien est à retrouver sur le www.rfi.fr et sur nos applications, rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Le Ramadan qui s'achève pèse lourd sur le portefeuille des Tchadiens. Le ministère en charge du commerce a beau avoir interpellé les opérateurs économiques pour les inciter à des baisses de prix avant le début du mois de jeûne, de nombreux habitants de N'Djamena se plaignent d'avoir vu les prix de l'huile, du sucre ou du poulet augmenter. À N'Djamena, le reportage de notre correspondante Nadia Ben Mafoud.
Dans la petite cour d'une concession de Clémat à N'Djamena, Camis et sa fille Haché se préparent à aller au marché. Ils sont 8 dans la famille, sans compter les amis et les voisins qui se joignent à eux tous les soirs pour l'iftar. Ils doivent donc composer avec la hausse des prix de certains aliments.
Cette année, c'est mieux. C'est l'huile qui a augmenté. L'huile était chère. De 10 litres. Avant, c'était à 22 000. Maintenant, c'est 32 000.
Et le reste, la viande, les légumes?
Non, la viande, légumes, là, c'est pas changé. Même chose, pas changé.
Mais moi, on me dit que c'est quand même assez cher.
Ouais, mais c'est pas, non. C'est qu'au marché, il y a un autre prix. Tu viens à Diguel, autre prix. Tu viens à marché du Mille, autre prix. Chacun met ce qu'il veut.
Est-ce que ça vous pousse à réduire un peu votre panier?
Ça ne réduit pas. Ça ne réduit pas. Donc, c'est le seul mois, donc, on va faire tout le moins possible, c'est ça.
Le matin, le marché central de N'Djamena grouille de monde. Amira se faufile entre les étals. Elle s'arrête devant un boucher.
La viande, ça va.
C'est pas très cher, c'est le poulet qui est cher. Pendant le ramadan, tout a augmenté.
Un peu plus loin, on retrouve Habiba. Elle est vendeuse de poulet et selon elle, c'est tout l'inverse. Les prix ont même diminué.
Le ramadan a commencé, on nous a diminué ça à 24 000. Oui. Nous, on vend à 3 000, 2750.
Mais moi, j'ai rencontré des clients qui m'ont dit que le poulet était très cher cette année.
Là-bas, là, c'est poulet naturel, poulet de village. Donc, on vend ça cher. 1 kg 100, là, on vend ça à 3 000, 2750. Et là-bas, poulet de village, là, c'est à 3 500.
Même si les prix ont moins augmenté cette année, pour cette mère de famille de 22 ans, l'enveloppe dédiée aux courses a malgré tout plus que doublé, alimé. Donc c'est comment le budget pour une famille par jour?
Je peux dire 10 000, 15 000.
Alors qu'en temps normal, c'est combien?
En normal, je peux dire 5 000.
Ah oui, donc c'est fois 2, fois 3.
Fois 2, fois 3.
Comment vous faites?
Alhamdoulilah, on gère.
La prochaine grosse dépense sera celle des cadeaux et des nouveaux vêtements pour l'Aïd el-Fitr qui viendra clore ce ramadan dans quelques jours. Nadia Ben Mafoud, N'Djamena, RFI.
Et c'est à N'Djamena que se referme cette demi-heure africaine, réalisée, préparée avec Karine Franck, Arthur Bon et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À lundi, Nicolas Sûr. Vous restez avec nous dans une minute maintenant, le rendez-vous d'Haïti et des Amériques, ou bien une demi-heure d'information en full day si vous êtes en Afrique de l'Ouest, ou encore en portugais si vous vous trouvez en Afrique lusophone.
Découvrez l'exposition Paris Noir au Centre Pompidou à Paris. Paris Noir met en lumière 150 artistes africains, caribéens et africains américains qui ont fait de Paris un foyer de création et d'engagement, de liberté et de résistance des années 50 aux années 2000. Ils sont célébrés pour la première fois en France. Paris Noir, circulation artistique et lutte anticoloniale jusqu'au 30 juin au Centre Pompidou à Paris. Plus d'informations sur centrepompidou.fr. En partenariat avec France Média Monde.
RFI, la sélection du mois.
Bomba Estéreo et Rawayana. Emma et Culture.
RFI Musique.